Bonjour, vous êtes bien sur Esprit Occitanie, c'est Patchwork. Patchwork, c'est une série de chroniques sur des sujets divers et vous allez le voir très variés. Nos animateurs vous parleront de droit, de finances, de littérature, de plantes et de tant d'autres choses encore. Bonne balade radiophonique.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces nouvelles chroniques de Maître Marie. La rentrée est faite depuis longtemps maintenant, les enfants, petits ou grands, ont repris le chemin de l'école, et donc nous pouvons revenir à nos bonnes habitudes qui restent à prendre en s'amusant. Et donc vous l'aurez compris pour cette reprise, je vous propose à nouveau un 4 à la suite. Et voici donc 4 nouvelles questions en droit du travail. Alors attention, c'est parti, main sur les buzzers. Les deux premières questions, on est un peu sur deux questions en une, puisque, parlons bien, parlons SMIC. Alors la première, ce serait, est-ce que vous connaissiez le montant du SMIC 2021 ? Le SMIC change normalement chaque année au 1er janvier. Beaucoup de débats sur son augmentation ou non après les deux années qu'on venait de traverser. Et finalement, pour 2021, c'est une augmentation de 0,99% qui a été décidée. Le montant du SMIC 2020 était de 10,15 € brut de l'heure, ce qui représentait 1539,42 € brut mensuels. Et suite à l'annonce d'une hausse de 0,99% à compter du 1er janvier 2021, le SMIC horaire est donc passé de 10,15 € à 10,25 €. Et le SMIC 2021 mensuel était donc de 1554,58 €, soit une augmentation brute de 15,16 €, le tout validé par un décret publié au JO du 17 décembre 2020. Alors vous le savez, aucun salarié ne doit percevoir une rémunération inférieure au montant du SMIC, sauf cas particulier. Et pour déterminer si un salarié perçoit bien le SMIC, il faut prendre en compte le salaire de base et des compléments de rémunération versés en contrepartie du temps de travail effectif, avec par exemple les avantages en nature, les primes directement liées à l'activité du salarié, comme la prime de rendement ou de productivité par exemple. Mais par contre, les primes qui ne rémunèrent pas le travail ne sont pas prises en compte pour vérifier l'application du SMIC. Je pense notamment à ancienneté, assiduité et même salissure dans les secteurs de métier qui versent ce type de primes. Attention aussi, les primes et gratifications payées à certains moments de l'année, comme vacances ou 13e mois, ne sont prises en compte que le mois de leur versement. Alors ça, c'était pour le SMIC 2021, mais deuxième question, est-ce que vous connaissez maintenant le montant du deuxième SMIC 2021 ? Et oui, parce qu'en fait, au 1er octobre 2021, le SMIC a connu une seconde hausse. Alors celle-là, c'est pas du tout l'effet d'un coup de pouce, c'est tout simplement une hausse mécanique. Pourquoi ? Parce que cette revalorisation du SMIC, elle est liée à l'inflation. En effet, le Code du travail prévoit une revalorisation mécanique du SMIC dès que l'indice des prix à la consommation augmente de 2% depuis la précédente revalorisation du SMIC. Donc je vous laisse envisager l'inflation galopante. Et donc, cette seconde augmentation de l'année fait suite à la publication par l'INSEE de l'indice des prix à la consommation pour le mois d'août. Et résultat, depuis novembre 2020, l'indice sur la base duquel l'augmentation du SMIC avait été fixée a augmenté de 2,2%. Donc, mécaniquement, le SMIC lui aussi va augmenter de 2,2% à compter du 1er octobre 2021. C'est donc fait à l'heure actuelle. Il passe donc ainsi de 10,25 € à 10,48 € brut, soit un SMIC mensuel brut de 1589,47 € pour 35 heures par semaine. Ce qui fait une hausse mensuelle de 34,89 € pour un salarié à temps plein. Voilà, donc maintenant grâce à ces deux premières questions, vous êtes incollables sur le SMIC et on peut continuer à vérifier nos connaissances en droit du travail dans un domaine complètement différent. Alors, question suivante, on peut remettre les mains sur les buzzers. Est-ce que j'ai le droit, en tant qu'employeur, de notifier une mise à pied conservatoire entre l'entretien préalable et le licenciement disciplinaire? S'il y a des étudiants en droit social qui nous écoutent, ils ont déjà vu tous les petits pièges dans la question. Alors, mise à pied conservatoire, déjà parlons définition. La mise à pied conservatoire, elle porte bien son nom, elle permet de suspendre immédiatement le contrat de travail dans l'attente de la sanction disciplinaire. Elle est donc une mesure provisoire et elle n'est pas une sanction disciplinaire, contrairement à la mise à pied disciplinaire. C'est bien, j'aime bien quand vous suivez. Donc, la mise à pied conservatoire, elle peut aboutir à la prise d'une sanction qui peut, par exemple, être sa transformation de mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, ou alors, carrément, un licenciement. Donc, pour en revenir à ma question, comme la mise à pied conservatoire n'est pas une sanction disciplinaire, eh bien oui, l'employeur peut tout à fait notifier une mise à pied conservatoire après un entretien préalable à un éventuel licenciement, par exemple. Mais attention, terrain glissant, donc faisons attention, il va falloir préciser dans la lettre de notification que cette mise à pied est une mise à pied conservatoire et on peut également faire référence à la procédure disciplinaire qui est en cours pour ne laisser planer aucun doute et aucun risque sur la nature de la mise à pied. Rappel, si c'est une mise à pied disciplinaire, on ne peut pas licencier le salarié fautif, parce que les mêmes faits ne peuvent être sanctionnés deux fois. Donc attention quand vous opérez la petite transformation. Et enfin, on va revenir sur un sujet qui, lui, n'est pas disciplinaire du tout, mais qui est l'entretien professionnel, puisque récemment, j'ai eu des questions à ce sujet, parce qu'ils avaient été décalés avec la crise du Covid. Et alors justement, est-ce qu'on a le droit d'évaluer le travail du salarié lors de l'entretien professionnel? L'entretien professionnel, il est distinct de l'entretien d'évaluation. Toutes les entreprises doivent mettre en place les entretiens professionnels avec tous leurs salariés. Et cet entretien-là, il est centré sur le salarié, son parcours professionnel. Il sert à mieux l'accompagner dans ses perspectives d'évolution professionnelle, par exemple changement de poste, promotion, besoin de formation. En principe, l'entretien professionnel est mené tous les 2 ans à compter de l'entrée du salarié dans l'entreprise. Donc non, cet entretien professionnel n'est pas là pour procéder à l'évaluation du travail du salarié, mais il s'effectue au cours d'un entretien distinct de l'évaluation professionnelle qui, elle, permet de dresser le bilan de l'année écoulée et de fixer les objectifs pour l'année à venir. L'entretien d'évaluation, il est facultatif, contrairement à l'entretien professionnel qui, lui, est obligatoire. Donc, l'entretien professionnel, c'est le salarié, son parcours, son évolution, ses besoins. On est centré sur le salarié. L'entretien d'évaluation, c'est quand même le salarié par rapport à son job, à l'entreprise, ses performances, ses objectifs. On n'est pas centré de la même manière. Alors, en raison de la crise sanitaire et des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie, de nombreuses entreprises n'ont pas pu organiser les entretiens professionnels état des lieux, qui devaient être menés sur 2020 et également sur une partie de 2021. Donc, eh bien, il y a eu des délais supplémentaires qui ont été accordés. On a eu un premier délai jusqu'au 30 juin 2021 et puis on a eu une tolérance supplémentaire jusqu'au 30 septembre 2021 sans encourir de sanctions. Alors à l'heure où je vous parle, on est le 12 octobre, donc autant vous dire que si vous avez une entreprise de au moins 50 salariés, j'espère que vous êtes au carré sur ce sujet parce que les sanctions, c'est quand même 3000 euros abondés sur le compte personnel de formation du salarié. Donc si jamais... au 30 septembre, vous n'étiez pas raccord, l'abondement correctif devra être effectué à partir du 1er octobre 2021 et avant le 1er mars 2022, date limite de versement du solde de la contribution à la formation professionnelle. Voilà, donc à vos tablettes, à vos agendas et à vos mesures d'organisation. Voilà. On arrive à la fin de notre 4 à la suite du jour. J'espère qu'il vous aura intéressé, que vous avez joué, peut-être même gagné. Vous pouvez en tout cas le réécouter pour une petite séance de rattrapage, si nécessaire. En tout cas, si ce format de 4 à la suite dans un domaine du droit vous plaît, eh bien n'hésitez pas à nous le dire sur la page Facebook d'Esprit Occitanie. Si dans ces petites minutes juridiques, vous aimeriez me voir répondre à des questions particulières, bien dites-le nous aussi et j'essaierai avec plaisir en tout cas de répondre à vos attentes et de les intégrer dans mes chroniques. On se retrouve très vite sur un sujet sans doute très différent, vous commencez à avoir l'habitude pour ceux qui m'écoutent depuis plusieurs années maintenant et je vous laisse avec grand plaisir en compagnie de mes acolytes du Patchwork. À très bientôt.
Chers auditeurs, bonjour. Monique Marc pour la rubrique La lectrice d'Occitanie. Je suis ravie de vous retrouver avec, pour cette rentrée, la lecture d'un nouveau roman de Gilbert Noguès, Pas d'orchidée pour Miss Armagnac, dont je vous dévoile partiellement le contenu. Il y a Adriana, Alima et Ashley, trois belles, pas vraiment farouches. Il y a Jean, étudiant en histoire de l'art, amoureux d'Ashley, la nouvelle Miss Armagnac, qui enquête sur une mystérieuse disparue du Moyen-Âge. Il y a Benoît, lieutenant de police et frère de Jean, qui enquête sur l'étrange disparition de la Miss. Il y a aussi Dragan, Nicolas, Zlatan, Milos, de troublants ressortissants originaires des Balkans. Il y a la grosse Bibi, chat obèse, il y a des meurtres et des meurtres. Il y a enfin de l'Armagnac et du bon. Le sang, le goût du sang dans ma bouche. Le goût du sang dans ma bouche, ce fut la première sensation que j'ai ressentie avant de recevoir sur mon visage le crâne défoncé et sanguinolent d'Adriana. Le goût du sang avec sa saveur âcre qui envahissait ma bouche. Ce sang qui lentement descendrait dans ma gorge et qui bientôt m'empêcherait de respirer. La balle de calibre 300 Win avait perforé la vitre du petit studio avant de transpercer le crâne de la jeune fille sans que je perçoive la moindre chose. Adriana, telle une Amazone, chevauchait mon corps et ses cris de plaisir résonnaient dans la pièce en rythme avec les mouvements de son bassin. J'eus soudain une sensation d'étouffement. Je tentai de me soulever en poussant sur mes avant-bras, mais le corps flasque d'Adriana, étalé sur ma poitrine, m'en empêcha. Je sentis le sang remonter du fond de ma gorge. J'expectorai bruyamment. Je sentis en même temps le sang affluer et gonfler mon sexe, profondément enfoncé dans celui d'Adriana. Un râle. Je venais d'éjaculer. Automne 1432. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Arnaud avait quitté l'abbaye juste après les Lodes. Il n'avait pas profité du temps de lecture quotidien qui était le sien. L'abbé Rode l'avait chargé d'une mission à l'extérieur. C'était la première fois, depuis son arrivée, qu'il allait sortir de l'enceinte de l'édifice. Arnaud était un beau gaillard, le troisième de la fratrie après Johann, l'aîné, âgé de 21 ans, et Bernarda, la cadette, âgée de 17 ans. Le quatrième, Peyre, n'avait pas atteint l'âge de 3 ans. Il avait succombé à la peste noire dans d'atroces souffrances. Quant à leur mère, elle était morte quelques jours après avoir mis au monde son cinquième enfant. Bernat, Lénat, son père, avait tout assumé pendant la période de quarantaine à laquelle toute femme était soumise après son accouchement. La malheureuse avait été emportée avant les relevailles et sa purification par l'Église. L'enfant, une petite fille, était mort dès le lendemain, Bernat n'ayant pas les moyens de lui trouver une nourrice pour l'allaiter. Pendant les années qui suivirent, le père avait tout fait pour rendre la vie possible aux trois enfants. Il avait pris en charge les différentes tâches ménagères, mais aussi, tant bien que mal, tentait de lui enseigner l'alphabet et lui faire découvrir Dieu. Arnaud avait-il souffert de la disparition prématurée de sa mère ? Toujours est-il qu'il s'était renfermé et Lénate avait du mal à l'intéresser aux travaux des champs. Arnaud passait le plus clair de son temps à réciter les trois prières majeures, le Notre Père, le Credo et l'Ave Maria. Et dès l'âge de 10 ans, il avait demandé à son père l'autorisation d'entrer dans les ordres. Bernat Fabas, rustaud comme bon nombre de paysans, mais surtout homme de cœur, ne pouvait se faire à cette idée et n'avait pas répondu favorablement à la demande de son fils. Il se disait que c'était une envie passagère, que cela passerait. Il aurait tant aimé que le jeune Arnaud devienne charpentier et pourquoi pas bâtisseur de maison. Il s'était même fendu d'un beau cadeau pour Arnaud, une petite chariote à roulettes qu'il avait construite les soirs de veillée autour de l'unique cheminée. Là, dans le cantou, il avait patiemment taillé avec son couteau les roues dans une souche de peuplier, les avait assemblées aux quatre planches du plateau, et finalement, le carré tout n'avait de l'allure. Arnaud se rappelait ces moments pas si lointains. Assis dans la chariote tirée par son frère aîné, il faisait beau, la terre autour de la modeste maison était sèche, il explosait de rire, sa sœur enfourchant son cheval bâton taillé dans une branche de frêne. Et puis, un jour, une roue s'était détachée. La chariote était restée un long temps près de la porte de l'hostal avant de finir aux premières froideurs dans la cheminée. Il y a 2 ans, peu de temps après son 13e anniversaire, Arnaud avait enfin rejoint la communauté religieuse de l'abbaye. Il serait moine. Ce jour-là, peu après l'élode, il avait aidé le Moumin, un homme, bossu, peu instruit, doté d'une force exceptionnelle et habile dans les travaux agricoles, à atteler la paire de bœufs à un tombereau. Il raterait ce jour les différents offices de prime, de tierce et même de nonne. Et si tout se passait bien, il ne rentrerait pas avant les vêpres. Il appréciait ce moment particulier de partage, de lecture en commun, la Lectio Divina. Plus tard, ce serait le dernier office de la journée, les complis, qui précéderait le grand silence de la nuit. Les guides dans sa main gauche, une longue hurgue de noisetier dans sa main droite, il dirigeait l'attelage. Le loré, le bœuf le plus fort, avait tendance à faire partir l'ensemble vers la gauche. Arnaud était à l'écoute des couinements du timon et des roues, il surveillait les 2 tonneaux ainsi que la dame Jeanne, disposée sur le tombereau. Il devait contrôler en permanence la direction, s'écarter des ornières boueuses trop profondes et éviter à tout prix de se mettre dans le bartas. Il avait beaucoup plu ces derniers jours et les fossés regorgeaient d'eau. En levant la tête, il nota la position du soleil et se dit que cela devait bien faire 3 heures qu'il avait quitté l'abbaye. Un milan royal tournait silencieusement au-dessus de lui, en quête d'une proie. Au loin, derrière une rangée d'arbres, il aperçut la tour crénelée du castel et le clocher de l'église de Castagnac. Avant. Adriana n'eut aucun mal à garer sa smart sur une place libre face à la rue des Pénitents Bleus. Une pluie fine ruisselait sur le pare-brise et faisait scintiller des lumières des lampadaires. La radio, branchée sur 100.2, diffusait une émission de musique ininterrompue. J'avais reconnu entre autres « No Surprises » de Radiohead. « Pas de surprise », susurrait Thom Yorke, et pourtant, j'en étais encore à me demander ce que je faisais là. Là, auprès d'une ravissante blonde. Là, loin de mon amoureuse. Là, complètement désinhibée par les effluves d'alcool, attirée par un désir profond de me donner du bon temps, de passer une belle soirée. Adriana coupa le moteur et se tourna vers moi. Nonchalamment, elle appuya son coude droit sur le dossier du siège, tout près de mon épaule gauche. « Un dernier petit verre ?» Elle avait lancé cette phrase avec un maximum de désinvolture et avec ce petit sourire faussement timide qui la caractérisait. Je tentais d'ouvrir la bouche, mais aucun son ne sortit. La radio diffusait maintenant un vieux tube de Led Zeppelin des années 70, « Stairway to Heaven ».« Toi, parlez rien », se contenta de dire Adriana en posant son index sur mes lèvres. « Je t'emmenais paradis, moi, c'est-à-dire toi ?» C'était Monique Marc pour la rubrique « La lectrice d'Occitanie ». Vous découvrirez la suite de ce roman très prochainement, mais en attendant, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts des émissions sur www.espritoccitanie.fr. À très bientôt.
Bonjour, je suis ravi de vous accueillir au sein de l'émission Patchwork pour la troisième saison de la Casa de Ebel. Pour cette nouvelle saison de la Casa de Ebel, j'ai décidé de revenir aux fondamentaux de cette chronique. Je vous proposerai dorénavant d'évoquer des sujets économico-financiers. J'entends déjà des commentaires taquins. Combien de temps tiendra-t-il ? Rassurez-vous, il est fort probable que cette bonne résolution, comme celle de début d'année, soit par moments, voire même souvent, si ce n'est très souvent, contournée. En effet, la routine est la meilleure façon de scléroser. Bon, assez de digression, voici le menu de cette nouvelle chronique de l'an 3 de la Casa de Ebel. En entrée, je vous propose de partir en Chine pour parler immobilier et conglomérat. Pour le plat principal, aujourd'hui assez roboratif, en effet, je vous conterai la dernière décision du Haut Conseil de la Stabilité Financière. Assurez-vous, il y a de quoi rigoler un petit peu et ne pas faire que de la théorie. Enfin, pour le dessert, je vous propose un peu de légèreté, entre guillemets bien entendu, avec les dernières prévisions boursières de nos amis de la Deutsche Bank. Commençons par la Chine. Evergrande, ou Evergrande, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un conglomérat immobilier qui est le symbole du « too big to fail » à la chinoise, donc trop gros pour... Le géant chinois de l'immobilier, Evergrande, a accumulé, accrochez-vous, plus de 300 milliards de dollars de dettes. Alors pour vous faire un comparatif, c'est à peu près la dette du Portugal. Et il se retrouve donc, ça, pas trop de soucis, au bord de la faillite. Mais Pékin peut difficilement laisser tomber ce conglomérat, qui symbolise tout simplement un pan du modèle de développement à la chinoise. On s'endette, on crée, on fait, on s'endette. Enfin bref, c'est un cercle qui aujourd'hui peut devenir vicieux. Donc c'est un immense château de dettes qui menace de plus en plus de s'écrouler, faisant peser une ombre importante, et c'est un euphémisme, sur l'économie chinoise et juste, par extension, sur l'économie mondiale. Evergrande a été recalé et a été dégradé par l'agence de notation Fitch, franco-anglaise, qui a abaissé sa note, il y a une semaine, à double C. Alors double C, qu'est-ce que ça veut dire ? Après, ben, effectivement, il n'y a plus que D, et D, c'est la faillite. S'il doit y avoir un niveau qui est C, qui est encore plus grave, et D, vous êtes en faillite. La définition du double C chez Fitch, c'est défaut de paiement est devenu le scénario le plus probable. Quand on est créancier d'une société comme cela, il y a de quoi avoir quelques petites sueurs froides. Le pire, c'est que les deux autres agences, alors notamment Moody's, a dégradé la note X fois pour arriver à un niveau de note qui est CA. Donc dans la hiérarchie de Moody's, on est quasiment à l'avant-dernier niveau de notation. Et là, la définition est un investissement extrêmement spéculatif. Alors déjà, un investissement spéculatif peut être risqué, mais extrêmement spéculatif. On est dans le summum du risqué. Et Standard & Poor's a fait la même chose, a abaissé la note, mais je n'ai pas le niveau. Mais on doit être à peu près au niveau pareil, double C ou simple C. En cause, vous imaginez bien, les 300 milliards de dollars de dettes que le groupe a accumulé. Boursièrement parlant, la chute du cours ne milite pas pour une reprise de ce dernier. En effet, comme le dit l'adage boursier, on n'attrape pas un couteau qui tombe et quand vous regardez le cours de bourse, vous voyez que vous êtes plutôt sur une pente assez descendante. Et oui, les boursiers ont parfois les pieds sur terre. Souvent a posteriori, vous en rendrez compte. Mais au moins, cet éclair de lucidité peut éviter d'énormes catastrophes et les limiter à de simples déroutes. Il n'empêche que certains gérants sont des spécialistes des penny stocks, donc des sociétés qui valent moins de 1 la devise de cotation. Donc là, peut-être un dollar ou un yuan ou un renminbi en fonction du lieu de cotation. Les projets immobiliers de cette société sont quand même présents dans 223 villes chinoises. Donc c'est le promoteur immobilier le plus endetté du monde. Les responsables de ce géant chinois ont reconnu officiellement fin août, donc il y a quand même peu de temps, qu'ils ne seraient peut-être pas en mesure d'honorer toutes leurs obligations financières. J'adore le côté un petit peu politiquement correct. Ce risque de défaut de paiement inquiète d'autant plus Pékin qu'Evergrande est le symbole de l'urbanisation à marche forcée de la société chinoise et plus largement du modèle de croissance chinois qui dépend fortement, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'endettement. Alors, un peu d'histoire. Le groupe a été fondé en 1996, à une époque où la Chine s'attaquait à la tâche herculéenne de déplacer des centaines de millions de Chinois de la campagne vers les villes, ce qui a permis au secteur de l'immobilier de connaître une très, très forte croissance. Evergrande a été le principal bénéficiaire de ce boom. Le groupe privé a poursuivi une stratégie très agressive et très dépendante de la bonne volonté des banques de le soutenir financièrement, consistant simplement à enchaîner les projets immobiliers à un rythme très soutenu, tout en embauchant à tour de bras pour servir ses ambitions démesurées. Aujourd'hui, on peut le dire que c'est véritablement démesuré. Et une petite pointe de mégalomanie peut-être. Le résultat, c'est que le groupe est en charge actuellement de 778 projets immobiliers. Ça pourrait faire rêver beaucoup, beaucoup de promoteurs immobiliers en France, par exemple, dans 223 villes chinoises. Et il emploie directement près de 200 000 salariés. Alors Evergrande, dans sa grande mansuétude, soutient aussi que son activité a permis la création de plus de 3 millions d'emplois indirects. Alors pour un pays où il y a 1 milliard d'habitants, c'est peu, mais à la taille d'Evergrande, c'est assez important. Mais ces emplois créés ne sont pas tous dans l'immobilier. Loin de là, vous allez voir. À partir du début des années 2010, peu après son introduction en bourse, avant il fallait absolument qu'il reste sur un seul secteur pour que les boursiers comprennent à peu près et voient un petit peu le cash flow possible de cette société. Donc Evergrande, après être entré en bourse, a engagé une politique de diversification de ses activités, bien plus que d'autres groupes du secteur. L'immobilier n'avait plus autant le vent en poupe en Chine et était considéré comme hautement spéculatif. Donc ça, c'était il y a 11 ans. Et le gouvernement avait érigé d'autres secteurs en priorité nationale. C'est à ce moment qu'Evergrande décida de se diversifier tous azimuts. N'oubliez pas l'activité initiale de ce groupe, c'est l'immobilier. Et c'est parti pour la diversification. Donc, la société a acquis des participations dans des services de streaming vidéo. Pourquoi pas ? Des mutuelles de santé, pourquoi pas. Des producteurs de lait et des coopératives d'élevage de cochons, pourquoi pas. Le groupe s'est aussi acheté un club de foot. Tiens, c'est vachement à la mode, ça, pour les... Et pas uniquement pour les milliardaires russes et les pays du Golfe. Donc, ils ont acheté le Guangzhou FC Football Club de Canton, qui a été, ce fois, champion... En Chine, bon, je n'ai pas le chiffre parce que je ne suis pas un grand spécialiste de ce sport, mais voilà, c'est un club de grande qualité. Et a également construit des parcs d'attractions. Alors bien sûr, avec un objectif, parce que quitte à être mégalo, il faut y aller jusqu'au bout, c'était de défier son rival, parce qu'il l'appelle son rival, Disney, quand même juste le leader mondial des parcs à thème. Et sa dernière lubie a été, à partir de 2019, de vouloir fabriquer, alors là, c'est juste extraordinaire, des voitures électriques, mais le problème, c'est sans avoir la moindre expérience dans le domaine. C'est vrai que c'est une excellente idée. Ça s'appelle une fuite en avant. Le but de cette stratégie était d'être présent dans suffisamment de secteurs prioritaires pour que le gouvernement soit plus enclin à soutenir le groupe financièrement lorsque le mur de la dette deviendrait difficilement soutenable pour Evergrande. Donc le too big to fail. Malheureusement, le groupe a été un peu trop lent. Il doit par exemple honorer 15 milliards de dettes de dettes d'ici la fin 2021. Bon, en banque, rassurez-vous, il n'a que 13 milliards à fin juin. Bon, depuis, il n'est pas sûr qu'ils aient augmenté leur compte bancaire. Et alors, ce que je trouve génial, c'est quand il déclare qu'aujourd'hui, les banques sont un peu moins enclines à soutenir Evergrande à tout prix. Donc, vous l'avez bien compris, Evergrande est rentré dans un cercle vicieux, estime le Financial Times. Les banques ne veulent plus lui prêter les fonds nécessaires pour finir ses projets immobiliers, ce qui fait que le promoteur n'a plus de logement à vendre et se retrouve privé d'argent frais pour rembourser les créanciers et rassurer les banques. Une faillite aurait des conséquences pour toute l'économie, comme je vous le disais en début de chronique, voire même pour l'économie mondiale. Il pourrait y avoir quand même quelques petites répercussions. On pourrait dire qu'un battement d'ailes en Chine pourrait avoir peut-être un effet de tsunami en Europe, voire aux États-Unis, voire ailleurs, voire partout. Dans une économie de marché normale, Evergrande aurait fait faillite depuis longtemps. Oui, mais le capitalisme à la chinoise a longtemps été beaucoup moins regardant sur l'endettement privé. La règle étant que tant qu'une entreprise donnait l'impression, j'adore ça, donner l'impression, d'avancer et d'avoir des projets en cours, les banques lui faisaient crédit. Oui, c'est le niveau 0, voire moins 10 de l'analyse financière. Quoi qu'on en pense. Hein. C'est vraiment, vous faites du business, on vous donne de l'argent. Vous n'avez pas d'argent, c'est pas grave, on vous en donne quand même. Les banques lui faisaient donc crédit, car dans le contexte de forte croissance chinoise, on avait l'impression qu'il y aurait toujours des profits à la clé. Voilà, c'est ça. On a l'impression que, mais ex post, c'est pas vraiment le cas. Bon, une logique qui a fait qu'en 2020, la dette des entreprises, de toutes les entreprises chinoises, représentait 160% du PIB national, contre à peu près 85% aux États-Unis et 115% par exemple dans l'ensemble de la zone euro. Maintenant que Pékin veut assainir les finances des grands groupes et des banques, des géants comme Evergrande se retrouvent dans des situations très délicates. Mais une faillite de géants chinois aurait des conséquences très profondes pour l'économie chinoise dans son ensemble. Vous imaginez l'effet domino assez important que ça pourrait avoir, voire même catastrophique. L'un des principaux risques est qu'au moins une banque n'y survivrait pas. Alors au moins une, vu les montants en jeu, et vu les systèmes de refinancement entre banques, de cofinancement, de réassurance, de co-assurance, en bref, tous les mécanismes qui ont dû être mis en œuvre à chaque fois qu'un prêt a été donné à la banque, c'est pas qu'une banque. Ça peut être le marché financier chinois qui peut être mis à mal. Dans le contexte actuel donc, de fragile reprise économique, en plus la croissance économique chinoise est beaucoup moins forte qu'elle n'a été précédemment, c'est un scénario que Pékin ne veut absolument pas. Donc pas de faillite d'Evergrande. Le quoi qu'il en coûte pourrait être le prochain terme utilisé par les dirigeants chinois. D'autant plus qu'un effondrement d'Evergrande risque d'avoir des répercussions de la des frontières chinoises. Le roi chinois du béton compte plusieurs grands groupes internationaux comme, alors vous allez les connaître, Allianz ou BlackRock, qui est le premier gérant d'actifs mondial, parmi ses partenaires. Et si Evergrande fait faillite, cela pourrait avoir des conséquences sur leurs comptes et inquiéter les investisseurs étrangers. Clairement, aujourd'hui, je pense qu'ils sont déjà largement inquiétés. Parce que ces investisseurs étrangers pourraient penser que Pékin va continuer à soutenir son champion coûte que coûte. Tout ça, dixit le Financial Times. Mais compte tenu de l'importance de cet acteur, la probabilité d'une restructuration de la dette par l'État est forte. En d'autres termes, Pékin va forcer la main des créanciers et organiser la vente des actifs non essentiels d'Evergrande. Donc, le plus probable, c'est que cela passe par une mise sous tutelle de l'entreprise qui sera gérée par l'État, parce que bien sûr l'État sait très bien gérer. Bah dans ce cas-là, je pense qu'elle ne peut pas faire pire. Et qui serait également aidée par une banque publique, le temps de trouver un repreneur. C'est un modèle qui a déjà été appliqué par le passé en Chine, mais mettre de l'ordre de 300 milliards de dollars ne va pas se faire du jour au lendemain. À suivre, trois petits points. Revenons en France et parlons crédit immobilier. Le HCSF, donc le Haut Conseil de Stabilité Financière, vient de rendre obligatoire ses recommandations concernant le crédit immobilier. Désormais, les banques qui ne le respecteront pas s'exposeront à des sanctions. Bon, après, on ne sait pas exactement quelles sont les sanctions, mais elles arriveront, leur liste et le niveau des sanctions arriveront un petit peu plus tard. Donc sans surprise, la mesure avait été annoncée en janvier, le Haut Conseil de Stabilité Financière, HCSF, une structure qui dépend du ministère de l'Économie et de la Banque de France, s'est réunie mardi dernier, le 14 septembre, et a gravé dans le marbre les conditions d'accès au crédit immobilier. Ces recommandations initiales sont devenues des obligations. Rien ne change vraiment, puisqu'elles étaient déjà largement appliquées depuis janvier 2021. Oui, on est déjà au 21e siècle, il faut que je m'y habitue. Elles représentent pour le gouverneur de la Banque de France des règles de protection visant à rendre l'emprunt plus sûr et à éviter les dossiers de surendettement. Bon alors, le Haut Conseil de la Stabilité Financière, bon, il sert à quoi? Alors, sur fonds de crédit bon marché et de prêts immobiliers à la hausse, qui est le cas actuellement, le Haut Conseil a pour mission d'examiner les risques systémiques que peut faire peser la forte croissance du crédit immobilier sur le système financier français et surtout sur l'endettement des ménages. Alors, les règles ne changent pas. Le contenu des recommandations ne change pas, comme je vous l'ai indiqué un petit peu plus tôt. Le taux d'endettement est toujours fixé à 35% pour un ménage, y compris l'assurance emprunteur, et ne peut pas être dépassé. La durée maximale de crédit est de 25 ans, avec une petite possibilité d'avoir 2 ans de plus pour un achat dans le neuf. Le taux de dérogation est fixé à 20%. Donc c'est le pourcentage de dossiers pour lequel la banque peut déroger à ses règles, que ce soit sur le taux d'endettement et ou sur la durée. En revanche, le HCSF transforme ses recommandations, donc ces trois points étaient des recommandations, et sont devenus des normes juridiquement contraignantes pour les banques. Tout manquement peut exposer l'établissement à des sanctions, une mesure qui devrait les inciter à être moins souples dans l'octroi de certains prêts à l'avenir. Donc il est probable que vous ayez un certain nombre de personnes, que ce soit vos banquiers, des courtiers et autres spécialistes du crédit immobilier, qui vous poussent, si vous avez une idée d'acheter ou de faire une opération financière, qui vous incitent à la faire assez rapidement avant le 31-12 pour pouvoir peut-être être le 21e% de dossiers un petit peu hors norme de la banque chez laquelle vous faites votre crédit. Alors les conséquences possibles, c'est une inquiétude qui se profile pour le printemps de l'immobilier 2022. C'est une période phare de l'année où une importante part des projets se concrétise. Ces derniers pourraient souffrir de l'enveloppe dérogatoire limitée à 20% des dossiers. En clair, si le projet nécessite de sortir des critères, peut-être vaut-il mieux anticiper ou attendre son tour pour avoir des chances de bénéficier des 20% de dérogation. Ces nouvelles règles prudentielles sont applicables à partir du 1er janvier 2022. Il reste encore un peu de temps aux emprunteurs dont les dossiers sont en jambes. Mais dépêchez-vous parce que vu le délai d'instruction d'un dossier, il faut y aller très très vite. C'est quand même une situation qui va se normaliser. En effet, le Haut Conseil a dressé un panorama du crédit immobilier en France. La normalisation progressive des conditions d'octroi observées ces derniers trimestres permet de renforcer les fondamentaux du modèle du crédit à l'habitat français et d'en assurer la robustesse, observe-t-il. Un constat s'impose. Les fondamentaux sont bons. Les dérogations baissent. La part des prêts avec des taux d'effort élevés et des maturités au-delà de 25 ans a baissé. En effet, les nouveaux prêts, dont les emprunteurs présentent un taux d'effort supérieur à 35%, représentent 18% de la production en juillet 2021. Alors qu'il était de 32%, ce taux de dérogation, en janvier 2020. Donc vous voyez, les banques avaient déjà anticipé et avaient dans l'idée que potentiellement le Haut Conseil allait durcir ces conditions. Un taux d'effort qui diminue. Entre janvier 2020 et juin 2021, le taux d'effort, donc le taux maximum d'endettement, a reculé de 0,9% et se situe actuellement en moyenne à 30%, la limite étant de 35%. Il en est de même pour la part des nouveaux prêts, avec une maturité excédant 25 ans qui est passée de 12% à 6% aujourd'hui. C'est-à-dire que les crédits qui, au départ, font plus de 25 ans ne représentent plus que 6% des nouveaux crédits qui sont donnés par les banques. En conclusion, les règles ne changent pas, mais deviennent plus contraignantes pour les banques et par capillarité pour les emprunteurs. Et pour finir, enfin, nous allons donc finir sur une note. Alors, je l'avais dit que le dessert était une note légère. Voilà, ça dépend un petit peu d'où vous vous placez. Donc, dans l'une de ses dernières enquêtes, la Deutsche Bank, la principale banque allemande, révèle que 68% des 550 professionnels des marchés mondiaux, marchés financiers, qu'elle a interrogés, s'attendent désormais à un recul des actions de plus de 5%. L'embêtant quand on dit plus de 5%, c'est que ça peut aller jusqu'à 100%. Bon, là, on serait dans un krach mondial finalisé, 1929, plus Armageddon, grosso modo, ça serait la fin du monde. Mais bon, voilà, il est possible, ce que ça veut dire, c'est qu'il est possible que les marchés subissent une correction, donc baisse. Et tout ça d'ici la fin 2021, parce qu'en général, on interroge pour fin 2021, puis on va en interroger bientôt pour 2022. Qu'est-ce que vous pensez sur 2022? Les gens vont dire qu'ils pensent beaucoup de choses. Certains sont haussiers, certains sont baissiers, et puis vous faites un peu la... Vous faites votre philosophie, vous regardez un petit peu ce que disent les haussiers, ce que disent les baissiers, vous allez adhérer à l'une ou l'autre des deux philosophies et vous faites vous-même votre philosophie. Et en fonction de ça, vous vous dites, moi je préfère acheter des actions ou attendre ou acheter de l'immobilier. Enfin voilà, c'est... je vous ai fait un petit raisonnement très 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 rapide de ce que peut être une allocation d'actifs pour quelqu'un qui a de l'argent et ne sait pas où le placer. De plus en plus de traders passent dans le camp des baissiers. Alors les traders, c'est les gens qui sont sur les marchés, qui achètent et qui vendent des titres. Donc le marché des baissiers, la part des personnes qui anticipent que les marchés financiers en général vont baisser pour le dernier trimestre 2021 augmente. Ça, c'est selon la Deutsche Bank. Allez lire Goldman Sachs, vous allez voir qu'ils sont totalement différents. Eux pensent plutôt que les gens qu'ils ont interrogés sont plutôt haussiers. Voilà. Et c'est là où vous devez vous faire votre philosophie. Alors, même son de cloche chez les investisseurs où le sentiment baissier prédomine désormais. Ces craintes s'expliquent tant par l'impact du variant Delta. Ah, tiens, j'en avais pas encore parlé, mais effectivement, il faut oublier qu'il y a une pandémie, que ça peut encore avoir quelques petits effets, que par le ralentissement économique. Et puis en plus, il pourrait y avoir un petit souci qui vient de Chine, dont j'en ai un petit peu beaucoup parlé en début de chronique, donc je ne vais pas revenir sur le sujet. Toujours selon cette étude de la Deutsche Bank, plus de la moitié des sondés, donc des 550 professionnels de marché, étaient inquiétés par l'apparition de nouveaux variants du Covid, contre lesquels les vaccins seraient inefficaces. Peut-être. Voilà, là c'est du pile ou face, on verra à la fin. Vous lancez un dé de 6 faces, et si c'est pair, c'est bon, et si c'est impair, bah, ça va baisser. La même proportion mettait en avant les risques d'une inflation plus élevée. Alors celle-là, l'inflation, ça fait quand même un certain nombre d'années, 5, 6, 7, 8 ans qu'on en parle. Donc ça s'appelle un serpent de mer. C'est sûr que si un jour elle ressort, ça peut être assez violent. Néanmoins, les signes sont encore assez légers. Les banques de la place se préparent donc à une forte correction, comme l'expliquent les analyses de la Deutsche Bank. Alors, une analyste qui s'appelle Bing Kishada, stratège en chef de la banque, a mis en garde contre une correction brutale dans un contexte de hausse des valorisations, alors que d'autres banques se montrent plus prudentes. À suivre. C'était la Casa des Ebels. Je vous remercie pour votre écoute. À la réalisation, Tiffen, pour une première. Bienvenue dans la grande famille d'Esprit Occitanie.
Bonjour et bienvenue dans Raconte-moi. Prenez un plaid, un coussin, un chocolat chaud et laissez-vous porter par l'histoire de l'âne de Montastruc. Au nord de l'église de Montastruc, il y a une mare commune. C'est là que les bouviers abreuvent leur bétail et que les femmes lavent leurs lessives. Un soir, vers les 6 heures, et par le mois de décembre, la lune se reflétait dans l'eau de la mare, comme elle eût fait dans un grand miroir. En ce moment, un homme arriva pour faire boire son âne. Pendant que la bête buvait, le vent changea tout à coup et couvrit le ciel de nuages pour toute la nuit. Alors l'homme, épouvanté, partit en criant « Ah, mon Dieu ! Ah, mon Dieu ! Mon âne a bu la lune ! Mon âne a bu la lune !» À ces cris, tous les gens de Montastruc accoururent, épouvantés. « Que dis-tu, malheureux ? Mon Dieu ! Mon âne a bu la lune ! Mon âne a bu la lune !» Les gens de Montastruc regardaient dans le ciel, dans la mare, et ils braillaient en pleurant. « Son âne a bu la lune ! Son âne a bu la lune !» Aussitôt, les consuls s'assemblèrent pour aviser devant la porte de l'église. « Amenez-nous l'âne qui a bu la lune !» On leur amena l'âne par le licou. Âne, c'est donc toi qui as bu la lune. L'âne leva la queue et se mit à braire. Tu as beau dire, c'est toi qui as bu la lune. Comment ferons-nous dorénavant pour y voir pendant la nuit? L'âne releva la queue et se remit à braire. Ah, voilà le cas que tu fais de la justice. Eh bien, nous te condamnons à mort. Tu vas être pendu. Dix minutes plus tard, l'âne était pendu à un arbre. Alors, un des consuls se ravisa. « Mes amis, dit-il, Nous avons dépassé nos pouvoirs de juge. Certes, il nous est permis de condamner à mort, mais nous n'avons pas le droit de faire mourir. Ce droit n'appartient qu'au juge mage de Lectour. À sa place, je prendrai fort mal tout ce qui vient de se passer. Pour nous remettre en paix avec lui, envoyons-lui force volaille. Faisons-lui porter aussi l'âne mort. Le juge mage choisira un chirurgien pour délivrer la lune prisonnière dans le ventre de la bête. Il ne manque pas à Lectour de grandes échelles doubles. En en dressant une sur le clocher de Saint-Gervais, un serrurier fort et hardi trouvera, je pense, le moyen de reclouer la lune à sa place dans le ciel. Ce qui fut dit, fut fait. 12 jeunes gens de Montastruc partirent aussitôt, chargés de poulardes, de chapons, d'oies et de dindons pour le juge mage. 12 autres prirent sur leur épaule une longue barre de chêne où l'âne mort pendait, lié par les 4 pieds. Jusqu'après Florence, tout alla bien. Mais là, les loups du ramier sentirent l'odeur de l'âne mort et arrivèrent par bandes, en criant comme des possédés du diable. Les jeunes gens, épouvantés, jetèrent leur volaille ainsi que l'âne et s'enfuirent au galop vers Montastruc. En un moment, les volailles étaient avalées et l'âne rongé jusqu'aux os. Le lendemain, la lune brillait au ciel, comme de coutume. Alors, les consuls de Montastruc éprouvèrent un grand soulagement. « Les loups du ramier, dirent-ils, nous ont rendu un fameux service. Maintenant que l'âne est mangé, le juge mage de Lectour ne saura pas que nous l'avons fait pendre. Quant à la lune qu'il avait bue, vous voyez qu'elle est plus fine que les loups. Elle leur a échappé et d'elle-même, elle est remontée à sa place dans le ciel. » Merci à tous de votre écoute. Vous pourrez retrouver cette histoire dans le livre « Contes populaires de la Gascogne » de Jean-François Bladet.